Chapitre 4. En rentrant à Paris, Aliette eut une impression d'isolement et de lassitude qui l'accabla. Le lendemain de son arrivée, en s'éveillant au milieu d'objets familiers qu'elle revoyait après l'événement qui l'avait brisé, elle retomba dans la sombre rêverie que d'autres pensées avaient écartée. Le côté mobile et impressionnable de sa nature, la dominant, rendait indécises les idées nouvelles qui s'étaient emparées de ses facultés pour les soutenir et les élever. Elle se débattait vainement contre sa tristesse lorsque la femme de chambre lui remit une lettre de Brest. « Quoi, déjà ? » s'écria-t-elle avec joie, en reconnaissant la grande écriture élégante et nette de Mademoiselle Prouvelle. La nuit qui a précédé votre départ de Brest, chère Aliette, ne dormant pas et pensant à vous, je me suis levée pour reprendre ces causeries interminables dont vous ne vous lassiez jamais. Je désire qu'une amie, qui vous aime déjà assez pour croire vous avoir toujours connue, apporte un mot de consolation à votre isolement. Je suis bien sûre que vous vous trouvez très seule et qu'avec votre impressionnabilité d'artiste, vous vous laissez ressaisir par le découragement et l'antipathie de ce qui est. Que je vous voudrais encore dans ce petit cimetière où, subissant de saines influences, vous montiez indirectement, inconsciemment aussi, vers l'inconnu que, maintenant, vous avez découvert. L'ascendant extraordinaire que la nature a sur vous ne m'effraie pas. Entre la beauté extérieure qui vous charme et celle que vous avez entrevue, il y a une corrélation étroite que vous verrez plus distinctement à mesure que vous pénétrerez plus avant. Vous me disiez, il suffit d'être en communion avec Dieu comme la fleur qui s'ouvre au soleil, comme la feuille qu'agite une brise mystérieuse. C'est charmant peut-être, c'est vrai également, mais si l'artiste vit de poésie et de sensations, le croyant puise sa vitalité dans le sacrifice et l'effort. La vie, Aliette, rien n'est beau et profond comme ce mot qui nous pénètre de sa chaleur et de son activité. Elle est contenue tout entière dans la sève de l'Évangile qui féconde les qualités naturelles pour leur donner l'animation et le développement rationnel de leur force. Cette sève est, pour nos aspirations infiniment variées, ce qu'est celle de la nature dans l'infinie variété de ses productions. Elle est l'éternelle jeunesse qui renaît de ses cendres, l'éternelle activité qui nous transforme et nous renouvelle. La vie oblige nos facultés au travail, à l'expansion. C'est l'action dans le monde moral aussi bien que dans le monde physique. Vous cherchiez une loi dont l'élévation et la pureté fussent en harmonie avec celle de la beauté extérieure, vous l'avez trouvée. Et ce que vous ne voyez pas encore, c'est la supériorité de cette vie intime et morale sur celle toute extérieure que vous aimez. Les deux sont l'expansion, la nature, mais l'une est l'expansion, la nature libre et consciente. Agissez, cher enfant, je pense à vous et vous aime de toute mon âme. Transportée par l'imagination en face des choses qui l'avaient séduite et d'idées dont elle avait entrevu les grands horizons, Aliette secoua sa rêverie malheureuse pour écouter la voix amie qui lui parlait d'activité. « Votre lettre, écrivit-elle aussitôt à Mademoiselle Plouvel, a été une bouffée d'air frais et réconfortant. Merci de m'avoir attirée immédiatement auprès de vous, au milieu d'impressions et d'idées qui ont mis certainement une empreinte sur moi. Vous avez raison, que ne suis-je dans ce petit cimetière, si plein de poésie dans son aridité ? Les bonnes heures passées le matin à écouter un langage dont vous avez précisé l'enseignement. Ici, je me réfugierai dans cette région morale dont vous associez heureusement la beauté à celle qui séduit la vue. Je me réfugierai aussi dans mon art. Souvent, il m'élève au-dessus de moi-même et j'aime à penser qu'il y a un lien invisible entre toutes les impressions supérieures. Je vous entends me dire que je vais me perdre dans une vague idéalité. Non, ne craignez rien. Autour de moi, trop de faits précis et lamentables nécessitent l'effort pour que je ne vive pas ainsi que vous l'entendez. Comptez que ce ne sont pas des mots et que j'entrerai prochainement en pleine activité. Dans l'après-midi, Aliette jeta ce billet à la poste en se dirigeant vers la rue de Bourgogne où demeurait M. de Sarzac. Il habitait un petit appartement élégamment meublé et vivait, en apparence, d'une pension que lui servait un parent. Le public ne connaissait pas le chiffre de la pension, mais Aliette s'étonnait toujours qu'elle pût suffire à la vie confortable de son père. Comme elle pensait à des dettes, elle eût voulu le rapprocher de Madame de Sarzac et le faire participer aux gains que lui rapportait son talent. Elle s'assit un instant dans la salle à manger où une table à deux couverts n'était pas encore desservie. Après quelques minutes d'attente, elle passa dans le salon et M. de Sarzac la reçut avec la froideur qui caractérisait toutes leurs entrevues. « Ah, te voilà, Aliette. Ravie de te voir, ma fille. As-tu été satisfaite de ton voyage en Bretagne ?»« Oui, répondit-elle avec effort. J'ai chanté plusieurs fois et ce pays me plaît beaucoup. »« Tu as eu du succès, naturellement. J'ai lu un article qui parlait de toi. » »« J'ai été contente. » »« Autant qu'on peut l'être, sans doute, quand on mène une existence de cabotinage, passe-moi le mot. » Tu sais que je n'ai jamais été partisan de te voir monter sur les planches où peu s'en faut. Je crois même que ta mère n'aurait pas reculé devant la carrière du théâtre. Il y a déjà longtemps que j'ai refusé d'entrer dans cette voie. Vous savez bien que je ne puis pas faire autrement, répondit-elle, les larmes aux yeux. Cela vous regarde, ta mère et toi, interrompit-il vivement pour couper court à tout épanchement. « Tu as l'air fatigué, du reste. »« J'ai regretté de quitter la Bretagne, » répondit-elle avec l'impression d'étouffement qu'elle éprouvait toujours dans ses visites à M. de Sarzac. « Oui, c'est un pays original. Est-ce que tu es entré en relation avec les Rilly ?»« Ils ont été excellents, parfaits pour moi. »« Braves gens, un peu bêtes, bretons, bretonnants. » Je ne me serais pas figuré qu'ils fussent bien flattés de recevoir une cousine qui chante en public. Elle le regarda avec surprise, car rarement il avait été aussi blessant. Son air impatienté fit comprendre à la jeune fille que sa visite était importune, et pendant que, dans sa déconvenue, elle regardait vaguement autour d'elle, son regard tomba sur des gants de femme qu'elle n'avait pas aperçus. Envahie par un sentiment d'immense malaise, elle se disposa à partir en disant « Je crains que ma visite ne vous ait dérangé aujourd'hui. »« Pas du tout, » répliqua-t-il en se levant avec une vivacité qui démentait son assertion. « Quand tu es arrivée, je causais avec un ami. Il a déjeuné avec moi et s'est esquivé en sachant que tu étais là. Je le reverrai quand je voudrais. » Extérieurement, M. de Sarzac était le type banal de l'homme bien né, sur lequel une vie irrégulière a mis la marque qui ne trompe pas. En dépit de sa distinction naturelle, il avait, même pour un observateur superficiel, cet air de déclassé qui manquait à la baronne. « Allons, adieu, Aliette. Reviens dans quelque temps, je suis toujours enchantée de te voir. »« Enchantée ? » répéta-t-elle avec incrédulité. « Ah, si vous le vouliez tous les deux, il me semble que le passé pourrait s'oublier et qu'en réunissant nos bonnes volontés et nos ressources, nous vivrions dans une aisance réelle et avec honorabilité. »« Avec ta mère ? Allons donc, » dit-il ironiquement. « Quant à ton honorabilité, ce n'est qu'un mot dont le sens est relatif aux différents climats. » Mais il est naturel de vivre d'après les idées et les coutumes du pays qu'on habite, mon père, répondit-elle d'un ton pressant. Assez, assez, c'est toi qui, un jour, seras contente de me trouver, je te le prédis. Ta mère est... Du reste, tu le verras bien toi-même. Allons, adieu, à bientôt. Elle marcha quelque temps sous l'empire du lourd malaise que cause l'impression d'une situation dont on ne définit pas exactement les éléments de fausseté. Il était rare qu'elle vînt voir son père sans sortir de chez lui avec un sentiment pénible qu'elle secouait difficilement. Ce n'était pas la première fois que, inspirée par ses illusions, elle tentait un essai timide pour approcher ses parents, mais jamais l'impossibilité de ce projet ne lui avait semblé plus nette. Le jardin du Luxembourg, qu'elle traversa pour regagner le boulevard Saint-Michel, lui parut désolé et, le soir, en relisant la lettre de Mademoiselle Thérèse, elle s'étonna de ne pas retrouver la fraîcheur de sensation qui, le matin, avait passé sur elle. Le contraste entre cette atmosphère très pure et celle dans laquelle la destinée l'obligeait à vivre la remplissait d'amertume. Puis, en songeant que, par l'effort de sa volonté, son âme pourrait puiser une force et une dignité indépendantes des circonstances, elle se calma et entra plus profondément dans les pensées qui devaient un jour régir sa vie morale. Malheureusement, ses premières tentatives pour obtenir des réformes échouèrent complètement. Quand elle parla de supprimer la femme de chambre et de chercher un appartement très modeste, la baronne jeta les hauts cris. « C'est impossible! Tu es sans cesse en rapport avec des gens que tu ne peux pas recevoir dans un taudis. Ce serait te nuire à toi-même que d'être logée comme une petite bourgeoise. D'ailleurs, dans très peu de temps, je suis sûre d'avoir beaucoup d'argent. » « Beaucoup d'argent ?» répéta sa fille avec effroi. « Oui, je suis engagée dans une spéculation dont la réussite est certaine. Ainsi, ne touchons pas à nos habitudes. »« Quelle spéculation ? Oh, de grâce, soyez prudente !»« Tu peux être tranquille, je m'appuie sur des conseils sérieux. » »« Du moins, je vous en prie, supprimons ces réceptions que vous voulez avoir chaque semaine. À quoi mènent-elles ? Tu as besoin des autres, tu le sais bien, cependant. Des relations te sont très nécessaires. Ce ne sont pas les gens que nous recevons qui me sont nécessaires. Vous aussi le savez bien, ma mère. Ce sont ceux qui me paient et ceux-là ne viennent pas ici. Aujourd'hui, je suis assez connue pour être recherchée sans autre aide que ma réputation. » Jamais depuis son retour de Bretagne, leur relation ne lui avait paru plus antipathique. Elle allégua en vain sa fatigue et l'utilité d'un repos absolu dans les moments de liberté que lui laissaient les exigences de plus en plus débordantes de sa vie d'artiste. Le plan de la baronne était arrêté car, sachant sa fille en correspondance avec Mademoiselle Plouvel et résolue à ne point la contrecarrer ouvertement, elle l'entourait avec habileté d'éléments qui pussent et l'empêcher de penser et combattre des influences détestées. Quelles que fussent les aspirations d'Aliette, sa vie surmenée était, en effet, un obstacle continuel à leur réalisation et à leur développement. Mais si Madame de Sarzac réussissait à mettre des entraves sur le terrain pratique, dans son incapacité à comprendre l'élévation d'une nature sur laquelle le mal et les vulgarités pesaient lourdement sans l'entamer, elle n'entrevoyait pas que des contacts antipathiques porteraient sa fille vers le courant redouté. Aliette, toujours inquiète, suspectait tous les actes de sa mère. Effrayée de lui voir faire des achats inutiles et s'apercevant que Madame de Sarzac l'emmenait avec elle parce que, ainsi parée de sa fille, son apparence était encore plus honorable et trompait mieux les fournisseurs, elle refusa de l'accompagner. Une après-midi, en rentrant, elle trouva dans l'antichambre une personne qui attendait. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Aliette. « C'est pour votre trousseau, mademoiselle. Nous avons commis une erreur hier avec madame la baronne. Nous avons préféré une explication verbale à l'envoi d'une lettre. » Aliette devint très pâle, mais conserva son sang-froid. « Quelles explications voulez-vous ? » demanda-t-elle. « Madame la baronne a choisi certains modèles et, après calcul fait, nous avons vu que nous ne pouvions pas les exécuter pour la somme de 3 000 francs qui nous a été fixée. » « J'ai apporté les dessins. Voulez-vous faire votre choix vous-même, mademoiselle, ou bien préférez-vous passer rue Aubert ?»« Je déciderai la question avec ma mère, » répondit-elle. « Ne commencez rien avant d'avoir reçu de nouveaux ordres. » »« Nous regrettons de vous déranger, mademoiselle. Au moment d'un mariage, on est tellement absorbé et occupé. » Aliette la congédia d'une brève inclination de tête, puis, se précipitant dans sa chambre, elle écrivit rapidement un mot qui contremandait le trousseau et l'envoya jeter à la poste. Elle attendit sa mère dans un état de fièvre et d'irritation que la longueur de l'attente exaspérait. Madame de Sarzac, qui enlevait tranquillement son chapeau et dont le visage n'indiquait aucune préoccupation, se retourna seulement avec un peu d'étonnement quand sa fille lui dit à brûle-pourpoint « On est venu pour le trousseau, je l'ai contremandé. » « Ces gens-là sont vraiment stupides. Je leur avais dit que je passerais chez eux. Mais de quoi t'es-tu occupé? J'avais combiné là une excellente affaire. » « Encore le mont-de-piété, n'est-ce pas ? » demanda Aliette, dont la voix tremblait d'une irritation comprimée. « Parfaitement, répondit avec calme la baronne, car dans quelques mois, je suis sûre de toucher une forte somme. « Et comment, comment ? Expliquez-vous, enfin !» Tu ne comprendrais pas, mais j'aurais payé le trousseau. En attendant, il aurait donné un revenu excellent et il te restait. Pourquoi mets-tu des entraves à mes combinaisons auxquelles tu ne peux rien comprendre? Je travaille beaucoup, je donne des leçons une partie de la journée pour arriver à éviter des actes blâmables. J'ai donc bien le droit. Mais elle s'interrompit, la colère la dominait et elle eût voulu s'expliquer avec modération. « Je m'en irai !» ajouta-t-elle brusquement. « Tu penses à m'abandonner ?» s'écria la baronne avec ironie. « Est-ce le résultat des idées de Mademoiselle Plouvel ?»« Ne touchez pas à cela !» s'écria Aliette violemment. Et des larmes lui vinrent aux yeux, car un souffle sain lui apportait des pensées pures, auxquelles se joignait le parfum de fleurs effacées qui s'épanouissait sur un sol aride. « Si je pars, reprit-elle avec plus de calme, c'est parce que vous l'aurez voulu. Je vous demande encore de m'écouter, de modifier notre manière de vivre, évidemment trop coûteuse. Si vous persistez à refuser, je m'en irai certainement. Ces mensonges, ces procédés malhonnêtes me font horreur. » Madame de Sarzac s'assit tranquillement et parut réfléchir aux paroles qu'elle venait d'entendre. En réalité, elle se demandait si c'était un malheur qu'Aliette connût ses agissements, si les sentiments honnêtes de sa fille ne serviraient pas un projet dont elle désirait ardemment la réussite. Prenant le parti de temporiser, elle répondit sans colère « Écoute, Aliette, j'ai des raisons positivement sérieuses pour ne pas changer notre manière de vivre avant 2 ou 3 mois. D'ici là, notre situation aura changé, j'en suis sûre. » Nos dettes seront entièrement payées et alors, pour n'en pas faire de nouvelles, nous arrangerons notre vie comme tu l'entendras. Je voudrais que ce fût tout de suite. Impossible, répondit brièvement la baronne. Contente-toi pour le moment des concessions que je veux bien t'accorder. Notre ami, M. Lassan, m'affirmait hier encore qu'il répond de l'affaire dans laquelle il m'a engagé. Aliette se retira sans insister plus longtemps. Elle était prise dans un enchevêtrement de mensonges qu'elle ne pouvait toujours bien définir, mais dont elle avait la certitude. Et sa mère venait de faire allusion à un homme dont le nom seul lui était insupportable. M. Lassan, banquier quelquefois, agent véreux toujours, était un habitué des réunions de la baronne. C'était un homme petit, mince, élégant, qui n'avait pas dépassé la quarantaine, dont le regard impudent et faux inspirait à Aliette un mépris à peine dissimulé. Ce n'était pas sans un vif mécontentement qu'elle le voyait entrer de plus en plus dans leur intimité, et bientôt, son sentiment se transformant en un vague effroi, quand M. Lassan l'entoura d'assiduité que la baronne encourageait visiblement. Le banquier était épris de la jeune fille, mais surtout sa vanité, surexcitée à l'idée d'épouser une femme dont le talent était en relief, le poussait vers le mariage. Personnellement, il avait d'excellentes raisons pour que la réputation des Sarzac ne fût pas un obstacle et il devait lui suffire de briller au milieu du monde interlope dans lequel il était né. Bien que les froideurs d'Aliette fussent sans équivoque, il espérait en triompher, non seulement à cause des circonstances, mais encore par son mérite personnel dont il avait une haute idée. Néanmoins, peut-être se fût-il découragé sans l'adresse de la baronne qui, le sachant fat et vaniteux, employait sa parole insinuante à le fortifier dans son espoir. Bientôt, grâce à d'adroites réticences et à des mots à double sens, le mariage de sa fille devint un sujet de conversation pour tout son entourage. malgré la réserve d'Aliette, différentes personnes verront complimenter la jeune fille. Révoltée de cette situation, elle entra un matin dans la chambre de sa mère et brusqua une explication. « Que veut cet homme avec sa cour déplaisante ? » s'écria-t-elle. Habituée aux manières de sa fille, qui abordait généralement les questions brûlantes sans préparation, Madame de Sarzac répondit tranquillement « Il veut t'épouser. Alors, veuillez lui apprendre que je ne serai jamais sa femme. Dieu sait cependant si je lui ai laissé voir mon antipathie. » « Antipathie raisonnée, reprit la baronne, et que tu devrais combattre. » « Combattre ? Et pourquoi ? Vous ne voudriez pas me voir l'épouser, je suppose ?»« Pourquoi pas ? Que lui reproches-tu ? » « D'être un homme qui porte ses tares sur son visage, » répondit-elle avec mépris. « Qu'il n'en soit plus question, je vous prie, et, de grâce, fermez-lui votre porte. » Madame de Sarzac se souleva légèrement pour observer sa fille, puis, se laissant retomber sur ses oreillers, elle répondit d'une voix fatiguée, « Quand donc deviendras-tu raisonnable ?» Aliette la regarda avec stupeur. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-elle. « Qu'il faut voir les faits comme ils sont, que dans ta position, tu ne peux pas espérer te marier en dehors du monde que tu vois, et que M. Lassan est un excellent parti. » « Ainsi, il vous a parlé de ses projets, et sait-il que vous avez des dettes ?»« Il a promis de tout payer. » « Alors, c'est un marché ?» Madame de Sarzac se mordit les lèvres et fit un mouvement d'épaule qui disait clairement « Pense comme tu voudras et marie-toi. » « Je n'ai pas la prétention, reprit Aliette avec amertume, de pouvoir me marier dans le milieu qui eût été le mien autrefois. Mais ce n'est pas une raison pour épouser un malhonnête homme. Monsieur Lassan n'est pas estimable. Ainsi, ne m'en parlez plus jamais, car jamais je ne l'épouserai. » « Je pense que la réflexion modifiera ta décision. Tu as entre les mains le moyen de nous donner à toutes les deux une situation indépendante et j'espère que ta répugnance se dissipera. Mais n'en parlons plus pour le moment. » Mademoiselle de Sarzac sortit vivement, elle s'habilla et se dirigea avec rapidité vers la rue de Bourgogne. « Qu'en dira mon père ? Je suis curieuse de le savoir, » pensait-elle avec irritation. Le baron, en robe de chambre, était assis au coin du feu et prenait son chocolat. Très étonné de voir sa fille à une heure aussi matinale, il la reçut avec une cordialité légèrement ironique. « Ah ah ! Est-ce que ma prédiction se réaliserait, Aliette ? Viens-tu ?» Elle leva la main pour l'interrompre. « Connaissez-vous M. Lassan ? » ?»« Certainement, j'ai eu quelques rapports d'argent avec lui. » C'est un galant homme en son genre. Mais qu'en veux-tu faire ? Il veut m'épouser. Malpeste, voilà qui changerait bien des choses. Il est fort riche, sais-tu, et pas mal tourné sur ma foi. Quels beaux titres à mon estime ! S'écria-t-elle. N'est-il pas le fils d'un usurier ? N'est-il pas un usurier lui-même ? Enfin, sa fortune est mal acquise, ne le savez-vous pas ? Mal acquise ? Peu ! « Cela dépend du point de vue, » répliqua le baron en tisonnant le feu d'un air rêveur. « Je l'ai dit bien des fois que l'honnêteté n'est et ne peut être qu'une chose relative. »« J'en connais d'absolu, » répondit Aliette, dont l'irritation s'affaissait dans un morne découragement. « Alors tu es bien habile. Mais enfin, que décides-tu ? Que je ne l'épouserai jamais !» « Avant tout, je veux estimer mon mari et j'aimerais mieux vivre femme d'honnête paysan au fond d'un trou que d'épouser un Lassan. » « des mots. Ma pauvre fille, il faudrait perdre l'habitude de vivre dans les nuages. Lassan a les manières d'un homme du monde, ce qui est très important, et il n'est pas plus malhonnête que tant d'autres. Au surplus, tu es libre, mais ton refus sera une bêtise. À quoi tient ta position ? À un mal de gorge, plus ou moins bien soigné. » Le dégoût qu'elle éprouvait toujours à voir traiter son art comme une affaire d'argent et la possibilité de perdre le talent qui était son meilleur soutien la mit des heures les plus sombres, firent fléchir son courage. « Combien vous et ma mère me comprenez peu !»« Comment, tu pleures ? En vérité, je ne voulais pas te faire de peine. répondit vivement le baron, bien incapable de découvrir les causes délicates et profondes de l'émotion qui débordait devant lui. « Personne ne t'oblige à épouser la sang, voyons. » « Assurément, et soyez certain que je ne l'épouserai jamais, » dit-elle avec résolution. « C'est dommage. Adieu, petite. » Aliette s'aperçut promptement que la concession de sa mère était une feinte. Si Madame de Sarzac ne parlait plus directement du mariage, sans cesse, d'une façon détournée, elle faisait comprendre à sa fille qu'il dépendait de sa volonté d'assurer définitivement leur vie et qu'il était bizarre d'hésiter si longtemps entre une répugnance irraisonnée et le devoir. Monsieur Lassan avait reçu le mot d'ordre et se tenait sur la réserve, mais si sa cour était plus discrète, elle était continue et conduite avec un tact, auquel Mademoiselle de Sarzac elle-même rendait justice. Peu à peu, elle se sentit échapper à elle-même et vit que le moment pourrait venir où, le pied lui manquant, elle tomberait sous le poids des circonstances. « Voici 4 mois, écrivait-elle à Mademoiselle Plouvel, que j'ai quitté la Bretagne. 4 mois de lutte pour ne rien obtenir des autres, ni de moi-même, car je n'ai pas fait un pas dans la voie que vous m'avez tracée. Vous me reprochez de vous abandonner, mais que vous dirai-je ? Je suis écrasée par les soucis d'une situation plus forte que moi, et si j'essaie de me reprendre, je vois avec terreur mon impuissance. Je vis dans une atmosphère de tromperie qui, chaque jour, s'appesantit sur mes résolutions et me mène où ? Peut-être à un mariage odieux. Si mon art m'élève un instant au-dessus des bassesses qui m'en serrent, le contraste me paraît ensuite plus écœurant. Dans ces salons où le succès m'attend, j'oublie tout pour donner le meilleur de mon âme, et qui s'en doute ? Et quels hommages sont-ils ceux qui, entourant le talent, oublient la femme ? Ou bien parfois ils me font rougir, car ils s'adressent à un être que l'on croit bien fragile, peut-être déjà brisé. Oh, ma fierté meurtrie et abaissée ! Pourquoi voulez-vous me faire croire au bien ? Quelle est donc cette vie entrevue dont vous m'avez parlé ? Où est la source transparente auprès de laquelle je me suis arrêtée ? Vous vivez d'illusions. Nos efforts ne servent à rien et la fange les ensevelit. Alors, que sont ces aspirations vers une vie plus haute et plus pure ? Et pourquoi font-elles pleurer si cruellement puisqu'elles ne sont rien ? Je vous embrasse et je vous aime. Aliette. Cette lettre bouleversa les habitantes de la laide maison dans laquelle la jeune fille avait laissé tant de sympathie. Mademoiselle Thérèse envoya chercher une voiture et se fit conduire chez les deux Rilly. Quel bon vent vous amène ! S'écrièrent-ils étonnés, car Mademoiselle Plouvel, absorbée par ses occupations et ses bonnes actions, n'avait pas mis le pied chez eux depuis des années. Il est joli le vent ! J'ai reçu ce matin des nouvelles d'Aliette. Tenez, lisez ! La lettre concerna le vieux ménage. « C'est incroyable ce que Paris peut faire d'une femme charmante !» s'écria M. de Rilly. « C'est quelque canaille pourvue d'argent qu'elle veut faire épouser à sa fille. Mais Aliette ne cédera pas. »« Bah, le mal est plus fin que vous et moi, mon bon ami !» répliqua Mademoiselle Thérèse. « Oh, je réponds d'elle !» répondit vivement Madame de Rilly. « Et moi, je ne réponds de rien. Sait-on à quoi peut aboutir le découragement dans une jeune tête ?» « Je pars pour Paris après-demain. »« Vous partez comme cela, tout de suite, à votre âge ?»« J'ai bon pied, bon œil, bonne dent, » dit en riant Mademoiselle Plouvel, « et mon âge ne connaît pas encore les défaillances. Cet enfant a une nature d'élite, je ne la laisserai pas dévier. Ah, si vous aviez vu, comme moi, tant de jeunes êtres qu'en mot de sympathie sauvés du malheur ou de la honte ?» Je me rappelle une malheureuse jeune fille, une de mes élèves, qui, s'étant gravement compromise par des lettres, était sur le point de tomber tout à fait. Elle avait déjà quitté la maison. La famille me pria d'agir et j'allais la trouver, mais j'étais tellement émue en voyant cette pauvre enfant égarée sur le point de se perdre que je n'ai pu que la prendre dans mes bras en pleurant. Et j'ai bien fait de suivre mon premier mouvement, car elle m'a dit « Ah, si vous étiez venu avec des reproches, j'étais perdue. Jamais je n'aurais cédé. Et je l'ai sauvée. Oui, c'est bien ainsi qu'il faut prendre cette pauvre nature humaine. En tout cas, la honte n'est pas à craindre pour Aliette, répondit Madame de Rilly. Marier un coquin, vous n'appelez pas ça une honte, et pour une femme douée aussi précieusement qu'Aliette. Enfin, je serai dans 2 jours auprès d'elle. Ils regardèrent avec une sympathie un peu étonnée Mademoiselle Thérèse, qui, femme d'action avant tout, surprenait toujours ses amis par ses promptes et généreuses décisions. Maintenant, je voulais vous demander si, le cas échéant, vous donneriez l'hospitalité à votre jeune cousine. Vous n'en doutez pas, j'espère. C'est un devoir, devoir de parents et de gentilhommes, ajouta M. de Rilly. Ah, vous voilà bien tout entier, répondit Mademoiselle Thérèse en lui serrant la main. Ah, que de braves cœurs j'ai rencontrés sur ma route, quoi qu'en disent nos pessimistes du jour. Allons, adieu, j'ai 1000 choses à faire avant mon départ. En traversant la campagne pittoresque, par un temps sec et clair, elle eût voulu Aliette en face de cette belle journée de janvier. Toutefois, elle était de ceux qui s'étonnent de l'influence profonde que la nature a sur les organisations méditatives ou artistes. Pour elle, la descente dans un cœur offrait plus d'intérêt captivant que la contemplation du plus magnifique horizon et, malgré ses affirmations parfois misanthropiques, elle apportait souvent, dans son observation de la nature humaine, les illusions dont l'artiste enveloppe la beauté qui l'attire. Son premier soin, en rentrant chez elle, fut d'écrire à Mademoiselle de Sarzac. « Je tremble en lisant votre lettre, mon Aliette. Qu'est-ce que ce mariage odieux auquel vous faites allusion? Vous avez besoin de moi, j'accours. Impossible de rester paisiblement dans ma maison quand je vous vois glisser dans une détresse morale dont il faut sortir à tout prix. Non, chère mignonne, ne soyez pas désabusée. Croyez au bon, au beau, au bien. Ne regardez pas seulement les laideurs qui vous entourent et vous déchirent si douloureusement. » Dites-moi si vos aspirations ne sont pas précisément la source dont votre découragement nie la réalité. Voyez-vous, Aliette, nous sommes des êtres dont la place est marquée, désignée par une intelligence supérieure. Et nos efforts, si faibles qu'ils soient, aident au soutien d'une loi sur laquelle s'appuie l'harmonie générale. L'inertie, l'indifférence, le découragement sont une violation de cette loi, car l'exemple est contagieux et le bien est toujours le bien. Si nous ne jouissons pas de la maturité de ses fruits, si nous n'en voyons pas l'effet sur les autres, du moins nous avons fait ce que nous devions. Or le devoir est le fond de la vie, le reste n'est rien. Voilà des pensées bien élémentaires, mon Aliette, mais elles sont saines, fortes, productives, établies sur des principes dont la racine trempe dans la source pure, que nulle fange ne salit jamais. En ne voyant plus les reflets d'une lumière divine dans le cœur de ceux que vous observez, ne doutez pas cependant de son existence en descendant dans votre propre cœur. Fassez le ciel qu'une précoce et funeste expérience n'étouffe pas en vous tant de bons ferments. Je voudrais alimenter de tout mon pouvoir la chaleur et les enthousiasmes de votre âme. Je pars, mon enfant, je veux passer quelques jours auprès de vous et vous sauver de vous-même. Quant à ce mariage odieux, il ne se fera pas. Si vous n'avez pas d'appui dans ceux qui devraient vous soutenir et vous guider, vous le trouverez dans mon amitié qui ne cède jamais. À bientôt.